Et à 8h40, c'est Marion Lagardère pour la revue de presse. Bonjour Marion.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Voilà, c'est fait, affirme Slate. La calotte glaciaire du Groenland a dépassé le point de non-retour. Ces glaciers ont tellement rétréci que même si le réchauffement climatique s'arrêtait net dès aujourd'hui, ils disparaîtraient inévitablement. C'est ce que rapporte une étude publiée dans la revue Nature, dans laquelle des scientifiques ont observé l'évolution de 200 glaciers sur 40 ans et les résultats sont sans équivoque. La neige, qui reconstitue d'ordinaire la calotte glaciaire chaque année, ne comble plus la perte de glace. Dans les années 80-90, le Groenland perdait 450 milliards de tonnes de glace par an, comblée partiellement par les chutes de neige. Mais depuis les années 2000, il perd 500 milliards de tonnes de glace, alors que la quantité de neige n'a pas augmenté. Évidemment, pour ceux qui se diraient tant pis, Slate rappelle que la fonte des glaciers va de pair avec la hausse du niveau des mers et donc l'engloutissement des littoraux, empreinte humaine déprimante. Pendant ce temps-là, le monde a toujours les yeux rivés sur l'épidémie de Covid. Ces masques, ces tests, ces cas positifs, son possible reconfinement, comme l'évoque le dossier de une du JDD. Le Parisien lui choisit de parler de l'inconséquence supposée des jeunes avec cette question: comment leur faire comprendre leur devoir de prudence sans être moralisateur? Porter un masque permet bien de freiner la propagation du Covid, mais visiblement, écrite agacée Marc Gros-Claude dans l'édito de Nord et Clair, ça ne semble pas parvenir au cortex cérébral de beaucoup. L'individualisme est bien, dit-il, le facteur aggravant de l'épidémie. Nord et Clair, qui vraisemblablement est en plein débat interne pour savoir si oui ou non les Français sont irresponsables, puisqu'hier, le même édito du même Nord et Clair notait exactement l'inverse. Je cite: l'énorme majorité des gens comprennent la nécessité du port du masque. Le cliché du Français râleur a donc la peau dure et n'est pas forcément vérifié. Bref, on n'en finit plus de polémiquer, qui est de supputer, de s'inquiéter.
Alors pour le débat, on peut également citer cette tribune dans le Parisien d'un médecin réanimateur à Toulouse.
Oui, le docteur Olivier Dessoir qui propose un compromis entre psychose et laxisme à condition d'avoir des salles de réanimation en état de fonctionner, écrit-il. On ne meurt plus, pour ainsi dire, du Covid-19. Cette phrase peut choquer, mais c'est notre expérience. Le virus est là, il est parfois virulent, mais on sait désormais soigner la majorité des cas graves. Alors remettons-le à sa juste place. N'en faisons pas un agent dont l'impact psychologique et sociétal dépasse de loin son impact physique. Armons les hôpitaux pour faire face, formons du personnel supplémentaire et vivons libres, ou comment tenter Laetitia de temporiser, c'est à lire dans le Parisien.
Et puis autre matière à polémique, décidément, cette fois c'est relevé par le JDD qui concerne le nouveau ministre de la Justice.
Et oui, Éric Dupond-Moretti qui signe la préface du prochain livre de Willy Schren, défenseur en chef des chasseurs français. Une préface au vitriol, écrit le journal, où l'ancien avocat qualifie les défenseurs de la cause animale d'illuminés, d'intégristes, d'extrémistes partisans d'un dogmatisme aveugle. Ce livre, écrit-il, les ayatollahs de l'écologie s'en serviront pour allumer le barbecue où ils cuiront leur steak de soja. Bon, on n'est pas sur la plaidoirie la plus subtile, mais d'après le président du lobby de la chasse interrogé par le JDD, il n'a pas été question une seule seconde de faire disparaître cette préface écrite avant la nomination de l'avocat au ministère de la Justice, Éric Dupond Moretti, dont la passion chasse est bien connue puisque le journal rappelle qu'il l'a souvent défendu sur les plateaux télé et qu'il est lui-même adepte de la fauconnerie. Ne vous méprenez pas, auditrice, auditeur, on parle ici de chasse au faucon, évidemment. Alors faut-il séparer l'homme du chasseur, du ministre? Pas de réponse pour l'instant de la chancellerie.
Et puis un événement qui a fait la une sans aucune polémique, c'est la qualification de Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions.
Et oui, fantastique, écrit en anglais la première page du Progrès, fou pour le Dauphiné et fabuleux pour l'équipe, parce que les Lyonnais, écrit Vincent Duluc, sont entrés dans une dimension inconnue d'eux-mêmes et de l'histoire de leur club. Et de l'histoire du foot français, serait-on tenté d'ajouter, puisque deux clubs tricolores, OL et PSG, sont pour la première fois qualifiés dans le dernier carré de cette compétition mythique. Oui. Pardon pour les profanes, mais voilà, face aux favoris, l'OL a réalisé un exploit qui dépite d'ailleurs la presse britannique, où l'on parle dans le Sun et le Guardian du crushed dream de Manchester, le rêve brisé, écrasé, écrabouillé. Une information sportive dispensable, diront les uns. Pur divertissement, diront les autres, qui préféreront peut-être lire le dossier du journal L'Alsace sur les dégâts causés par la sécheresse, ou celui de Libération.fr sur la marée noire qui dévaste les côtes mauriciennes, ou bien encore l'un des nombreux papiers sur les vendanges précoces.
Ouais, parce que ça, c'est à la une de la Dépêche, l'Union, l'Est éclair, Libération Champagne, oui. Des rangées de ceps de vigne chargées de grappes de raisin.
Et la promesse d'un cru 2020 de qualité, mais surtout très en avance, chaque année plus que la précédente. Ferons-nous les vendanges en juillet dans quelques décennies, se demande l'Union, qui note qu'en Champagne, on vient de battre le record de 2011 où la récolte avait commencé le 19 août. Dans la région centre aussi, la vigne est en avance de 3 semaines par rapport à il y a 25 ans, résume Francis Audio, viticulteur interrogé par le Berry Républicain. Impossible de laisser les grappes sur les pieds, il faut récolter vite si l'on veut continuer à proposer des vins vifs et fruités avec un bel équilibre, ajoute le coprésident du syndicat viticole du Quincy, Yves Lestourgie, qui pointe les effets du changement climatique, le réchauffement encore, l'empreinte humaine encore. Enfin, sur le fond œnologique de l'affaire, le journal Le Monde nous interpelle. À l'heure de trinquer, vous êtes plutôt rosé clair ou rosé foncé? Les amateurs s'étonneront qu'il y ait débat, la pâleur du rose signant généralement l'élégance de la cuvée. Mais voilà, les sombres sont intrigants, écrit Ophélie Neyman. Tour de France donc, des rosés foncés de Bordeaux au Languedoc en passant par le Rhône et l'Anjou, oui, on peut aussi les prendre au sérieux, conclut le journal. Rappelons tout de même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'avant de se boire, le raisin, ça se mange. C'est bon, c'est sain, c'est local, c'est de saison et c'est aussi le fruit de l'une de ces empreintes humaines, le travail millénaire de la vigne qui n'est ni déprimante ni culpabilisante. Allez, profitons-en, mangeons des grappes.
Mangeons des grappes, merci Marion Lagardère. Il est 8h47.